Les marchandes de sable, conte d'une grand-mère vietnamienne, de Yveline Ferré. La tortue d'or. L'amour de la femme pour son mari est grand, mais les bienfaits du père sont profonds. Jusqu'à ce jour, cette étrange injustice reste un mystère. La griffe gâchette n'avait plus de pouvoir et la tortue d'or était loin. Ceci se passait au temps des premiers royaumes Viet. Les textes anciens disent que l'année Giap Thanh, le roi de Phuc, s'étant emparé du royaume de Van Lang, monta sur le trône, prit le nom de Han Duong, changea le nom du pays en Ho Lac, établit sa capitale dans la montagne Viet Phuong, où il décida d'élever la plus inexpugnable des citadelles. Elle devait comprendre 9 enceintes bien remparées, renforcées de tours de garde, creusées de profonds fossés, elle-même enroulée en forme d'escargot, d'où son nom de Koloa, cité du coquillage. Il est dit encore que cette construction fut commencée par le roi Han Duong lui-même. Quoi qu'il en soit, à peine les murs commençaient-ils à s'élever qu'ils s'écroulaient, enterrant du même coup les ouvriers. Les élevait-on de nouveau qu'ils s'effondraient encore, et ainsi 3 fois de suite. Tout n'était que cadavres, ruines et décombres. La cour et le peuple se perdaient dans conjectures. Ce projet contrariait-il le ciel ? Fallait-il attribuer ses échecs successifs aux esprits malins ? Depuis son intronisation, Sa Majesté le Fils du Ciel avait-il toujours respecté ses devoirs les plus sacrés, par exemple sa visite saisonnière à la maison du calendrier ? Bref, de quel manquement, de quelle omission fatale venait tout ce malheur ? Le roi Han Duong interrogea son grand conseiller, qui lui conseilla l'obstination. Son ministre des rites qui insista sur la stricte observance du rituel, les mandarins de la cour qui protestèrent de leur loyauté et des efforts déployés. Après quoi, 3 jours durant, il se retira loin de ses femmes, jeûna, médita et implora le ciel pendant que le peuple offrait des sacrifices au génie. Au soir du 3e jour, qui était le 7e jour du 3e mois, comme le roi contemplait le coucher de soleil sur l'étang au lotus depuis la terrasse de son pavillon, il vit les ardentes vapeurs du crépuscule rouge devenir blanches, puis dessiner lentement une forme humaine, celle d'un vénérable sage à la longue barbe opalescente, dont les pieds reposaient dans la brume. « Bientôt, dit ce sage, viendra l'envoyé de la rivière claire. Demandez-lui comment construire la ville. » Ayant dit, il se dissipa en fumée. Ordre fut aussitôt donné d'interrompre toute navigation de jonques et sampans sur la rivière à la porte sud et le lendemain, dès l'aube, le roi Han Duong en personne, le regard tourné vers l'Orient, se mit à guetter l'envoyé annoncé. Ses yeux las de scruter commençaient à se brouiller quand il aperçut au loin en train de flotter une masse sombre semblable à un fond de barque renversé. Quoi, cette épave, malgré ses ordres ? Mais voilà que le fond de barque en question, en se rapprochant, se mit de plus en plus à ressembler à une gigantesque carapace dorée, flanquée de 2 nageoires plus larges et plus grandes que des feuilles de bananier. C'était bel et bien une tortue qui s'avançait maintenant vers lui en se tenant debout sur les eaux. Dans le langage des hommes, elle annonça qu'elle était le génie Kim Kui, tortue d'or, envoyée de Long Quan, l'empereur des eaux, instruite de tous les secrets du ciel et de la terre, de la mort et de la vie, des génies et des démons. Le roi Han Duong s'en réjouit, car ceci était conforme aux paroles du vieillard. Promptement, il fit avancer son char pour conduire la tortue au palais avec tous les égards. Là, quand ils se furent installés selon le cérémonial de l'hôte et de l'invité, Sa Majesté put enfin lui demander pourquoi il ne pouvait élever des remparts. « La racine du mal s'étend très loin, » répondit la tortue d'or. « Ce sont les mânes inassouvis d'un prince de l'ancienne dynastie qui s'appuient sur les esprits de la montagne Fa-Dieu pour venger leur pays perdu. » De plus, se sont réfugiés dans cette montagne 2 démons, un coq blanc vieux de plus de 1000 ans et un musicien d'autrefois qui a été enterré ici et s'est métamorphosé. Près de la tombe se trouve une auberge tenue par un certain Ngo Kong. Il y a une fille et aussi un coq blanc, l'un et l'autre enfantés par les esprits maléfiques qui, surgissant des profondeurs de la montagne et prenant 1000 aspects divers, assaillent l'auberge et y mettent à mort les voyageurs venus y passer la nuit. Or, le coq blanc a pris pour femme la fille de l'aubergiste. Il faut donc tuer le coq blanc afin d'écraser du même coup les esprits malfaisants. Mais à peine écrasé, ceux-ci se transformeront en hibou, à 6 pattes tenant dans son bec une requête adressée à l'empereur du ciel et réclamant la destruction de la citadelle. Il faudra attendre que le hibou se pose sur l'arbre Kiendan, alors je le mordrai. De douleur, il lâchera la roquette que vous ramasserez aussitôt, et alors vous pourrez construire votre cité. Sur les conseils de la tortue d'or, le roi Anduong troqua sa jaune tunique endragonnée contre un simple costume de voyageur. Puis sans palanquin ni monture, avec pour seule escorte la tortue d'or devenue minuscule, suspendue à sa ceinture dans un étui à poèmes, il s'enfuit vers l'auberge de la montagne. L'aubergiste Ngukong venait juste d'enterrer le voyageur mort la nuit précédente. Il se reposait sur le seuil en tirant sur sa pipe à eau. Sa face marquée du sceau de la fatalité ne reflétait pas l'heureuse vacuité du fumeur, et sitôt qu'il aperçut le nouveau venu, elle prit la sombre coloration du fer refroidi. « Passez votre chemin, honorable voyageur, » fit-il d'un ton morne. « Cette auberge est hantée par des esprits malfaisants. Durant la nuit, ils tuent ceux qui ont le malheur de s'y arrêter. Votre humble serviteur lui-même se garde bien d'y rester. Il fait encore jour. Éloignez-vous. » La vie et la mort sont affaires de destin, répondit le roi en souriant. Les esprits maléfiques, je ne les crains pas. L'aubergiste eut un haussement d'épaules résigné. Encore un qui l'enterrait le lendemain. Pendant que sa fille, à la chevelure longue et au teint blanc comme un œuf, jetait à la dérobée sur leur hôte des regards effrontés. Or, donc, le roi s'installa à l'auberge pour la nuit, non sans avoir au préalable accroché la tortue d'or au linteau de la porte, ainsi qu'elle l'avait dit. S'étant étendu sur son bas-flanc, il s'endormit. On devait approcher de l'heure du buffle quand un grand souffle succédant à un hallucinant silence parcourut la montagne qui se remplit de présence. Soudain se leva un vent à arracher, comme on dit, la terre devant la porte des 10 enfers. L'auberge gémit de toute sa charpente. La porte battit à tout rompre, tandis que les ténèbres s'emplissaient de cris, de vociférations et de rires de démons. Réveillé en sursaut, le roi entendit quelqu'un au dehors ébranler furieusement la porte des pieds et des poings. Appelait la fille de l'aubergiste et hurlait « Qui est là-dedans? Ouvrez la porte !»« Je te défie de l'ouvrir, » répondit la tortue d'or. Sans trêve, d'autres démons prirent la relève, criant d'ouvrir la porte, prenant 1001 aspects, usant de ruses innombrables afin de terrifier l'esprit du noble voyageur. Et ce jusqu'à l'aube, sans réussir à pénétrer. Au premier chant du coq, force leur fut de déguerpir vers leur repère de démons du mont Fadieu. Quand un peu plus tard, l'aubergiste Ngukong s'en revint à l'auberge avec de l'aide pour enterrer l'honorable voyageur, il eut un sursaut en le voyant toujours vivant, souriant et parlant. « Seigneur, » dit-il prosterné à ses pieds, « si vous avez survécu, certainement vous êtes un saint. Alors veuillez me donner un remède du ciel pour sauver désormais les voyageurs. »« Tuez votre coq blanc, » répondit sans hésiter le roi. « Offrez-le en sacrifice au génie et les démons seront dispersés à jamais. » À peine Ngokong avait-il tranché le cou du coq que sa fille, avec un grand cri, s'écroulait face contre terre, morte. Qui l'eût reconnue dans la dépouille gisant sur le sol, noire et ratatinée? Sur ce, le roi envoya les gens de l'auberge fouiller la montagne Fadieu. Ils mirent à jour de nombreux instruments de musique anciens et des ossements humains qui furent immédiatement réduits en cendres et engloutis dans les tourbillons de la rivière. Restait encore à gravir la montagne Viet Phuong, à la recherche de l'esprit malfaisant métamorphosé en hibou. Le roi Anduong et la tortue d'or l'atteignirent à la tombée de la nuit. Le long de sentiers aussi entortillés que boyaux de chèvre, ils cheminèrent sans bruit jusqu'à l'arbre de santal. Perchés sur la plus haute branche, les esprits malfaisants étaient bien là qui avaient pris la forme d'un hibou à 6 pattes, tenant dans son bec la requête à l'empereur du ciel. Furtivement, la tortue d'or transformée en souris noire s'en approcha et lui planta ses dents aiguës dans la patte. De douleur, le hibou lâcha la lettre dont le roi aussitôt se saisit. Elle était rongée plus qu'à demi. À compter de ce jour, les esprits malfaisants, tels des feuilles mortes emportées par le vent, des nuages par la bourrasque, disparurent. Entre la floraison des chrysanthèmes et celle des abricotiers et des pêchers, la cité du coquillage, enroulée dans ses remparts, put être édifiée. Quand au bout de 3 ans la tortue d'or décida de s'en aller, le roi Anduong, très ému, lui dit « Grâce à vous, puissant génie, la citadelle s'élève désormais puissante. Mais en cas d'invasion, comment la défendrai-je ? La grandeur ou décadence des empires, la guerre ou la paix dépendent de la volonté du ciel, mais aussi de l'action humaine qui peut influencer le destin. Roi, ce que vous désirez, je vous l'accorde volontiers. » À ces mots, elle arracha une griffe de sa patte, et encore tiède et sanguinolente, la lui tendit. « Faites de cette griffe la gâchette de votre arbalète. Si des ennemis surviennent, lancez sur eux vos flèches et soyez sûrs de la victoire. Ensuite, le roi Han Duong accompagna la tortue d'or hors des portes de la cité du coquillage et la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans la mer de l'Est. Le lendemain, après un sacrifice à l'intention du génie protecteur en signe d'infinie gratitude, il ordonna à l'un de ses sujets nommé Kaolo, fort habile arbalétrier, de confectionner un arc ayant la griffe de la tortue pour gâchette. Une fois l'arc achevé, qui était une pure merveille, le roi le fit suspendre par précaution dans sa chambre, à la tête de son lit dragon, où à tout instant il pouvait le contempler. On lui donna le nom d'arc enchanté de la griffe de la tortue d'or à l'éclat surnaturel. Mais l'histoire n'est pas terminée. Les textes anciens disent encore que le royaume au lac, sous le règne du roi Han Duong, connut une si longue période de paix que les hommes désapprirent à faire la guerre. Mais quand l'année Tan Mao, le roi chinois Trioda, avide de richesses, épris de puissance, conduisant une forêt humaine hérissée de lances, de piques et de halbardes, envahit le pays. Le roi Han Duong sortit alors de la ville à la tête de ses troupes qui n'avaient jamais combattu. La bataille devait durer à peine le temps de mâcher une chique de bétel. Avec son arc magique, le roi tira 3 flèches et aussitôt 30 000 ennemis jonchèrent le sol pendant que les survivants, nuages dans la tourmente, se débandaient et s'enfuyaient. Ainsi Han Duong devait-il repousser cette invasion et les suivantes, au mépris de toutes les stratégies déployées par Trioda, son adversaire, pourtant fort habile dans l'art de la guerre. C'était vraiment le cas de dire que l'archer surnaturel avait mis à mal son prestige de tigre. De mal, le rage de ses entrailles en était embrasé. Comprenant alors que le souverain du Haut-Lac possédait quelques sortilèges qui le rendaient invincible, le roi Trioda décida d'utiliser la ruse et mûrit son plan. Vaincu, il demanda la paix et feignit les meilleures intentions du monde à l'égard du vainqueur, allant jusqu'à envoyer comme ambassadeur Trong Thuy, un de ses fils, en gage d'amitié et de concorde. « Prends bien garde de ne pas oublier la mission dont tu es chargé à la cour de notre ennemi, » dit-il en le quittant. « Le sang de nos soldats crie vengeance. Si tu trahissais le serment fait sur l'autel de nos ancêtres, tu serais indigne de vivre. »« Père, soyez assuré d'être obéi, » répondit le fils d'un ton grave. Sans que tressaille un seul muscle de sa face de léopard, Trioda reçut cette promesse solennelle et une fois vidée la coupe des adieux, ils se séparèrent. Lorsque le jeune homme arriva en vue de la cité du coquillage, enroulé vers le ciel, gardé par des guerriers sans armes, le cœur lui battit d'excitation. Là, dans un de ses palais aux arêtiers courts recourbés, au fond de quelques salles profondes, nichées au cœur du bois ou de la pierre, se trouvait le secret du roi Han Duong, qu'il se faisait fort de découvrir. D'impatience, il lança sa monture. À ce moment-là, le roi Han Duong, prévenu par les guetteurs, sortit aussitôt de la ville pour la cérémonie de réception hors des murs. C'était un roi que la possession de l'arc enchanté de la griffe de la tortue d'or à l'éclat surnaturel avait rendu débonnaire. Amateur de festins et de chanteuses, il ne souhaitait rien tant que vivre en bonne intelligence avec ses voisins dans son royaume calme et prospère. Aussi accueillit-il fastueusement le fils du belliqueux roi Trioda dans l'espoir d'une paix durable. Avec ses sourcils de verre à soie, son menton d'hirondelle, ses épaules larges et sa haute taille, le jeune prince chinois Frong Dui apparut à tous tel un héros de légende. Comme il joignit à une courtoisie innée un talent littéraire confirmé et une science accomplie des armes, il n'eut aucun mal à séduire la cour de Koloa et plus encore la délicate princesse Michao, la fille préférée du roi, sa confidente. De son côté, plus Frong Dui contemplait Michao, plus son cœur était troublé. Son visage avait la fraîcheur de 1000 fleurs écoloses, l'aisance de ses gestes et sa candeur ajoutaient à l'éclat de sa beauté une séduction incomparable. À les voir au fil des jours, l'un près de l'autre, tels 2 rameaux de cerisier rapprochés par la brise, le roi Han Duong bénissait le vieillard au fil rouge qui, en liant le sort de ses 2 enfants, scellait la paix entre leurs 2 pays. Les rites du mariage accomplis, durant plusieurs saisons, le jeune couple devait connaître un bonheur sans partage. Mais hélas, le malheur couve sous le bonheur. Une nuit, après les joies de l'oreiller partagé, le jeune homme comblé se souvint de la promesse faite à son père. Reprenant pied dans la réalité qui faisait de lui un Chinois appartenant à l'Empire du Milieu, et d'elle une barbare qui en était exclue, il se maudit d'être ainsi tombé dans son propre piège. Michel, perdu dans l'adoration de son époux, ne vit pas les ombres s'accumuler dans l'angle de ses paupières, son sourire se faire plus ambigu. Elle répondait en toute innocence aux questions de son époux bien-aimé, à propos de son père, de son génie militaire, de plus en plus vite à mesure que celle-ci se faisait plus pressante. « Petite sœur, » insistait Frong Tui de sa voix la plus caressante, « toutes ces victoires que Sa Majesté votre père a remportées, à qui dites-vous qu'il les doit ?» À cet instant, Michel, dans l'ivresse des révélations, se rappela soudain le serment fait à son père de ne jamais rien révéler sur l'arc magique ou de laisser sa vie au tranchant de son épée sacrée. Elle sentit ses os se transformer en glace et bredouilla. « Votre petite sœur n'a rien dit. Elle ne doit pas. » « Notre petite chérie a-t-elle oublié que nous formons un seul être en deux personnes, que nos deux royaumes sont désormais alliés ?» insista Frong Tui en la prenant dans ses bras. « Aurait-elle un secret pour moi, son époux ?» Il la tenait embrassée, la berçant comme un petit enfant. Ses yeux, tout son visage le souriait. « Attendez. » Alors, avec élan, elle lui confia le secret de l'invincibilité du roi Han Dung, son père. Le mystère de l'arc enchanté de la griffe de la tortue d'or à l'éclat surnaturel, suspendu au-dessus du lit dragon, qui, d'une seule flèche, tuait 10 000 ennemis. Son amour était absolu, sa confiance totale. Trong Fui feignit de se réjouir d'être le gendre d'un roi aussi puissant. « Me serait-il permis de voir ce fameux arc enchanté ? » fit-il d'un ton léger. En cachette, Michaël le lui montra. Néanmoins, de temps en temps, à l'occasion d'un geste tendre, d'une parole aimante du roi son père, la princesse sentait un malaise lui flétrir les entrailles. Elle avait failli à sa promesse. Mais, se rassurait-elle aussitôt, entre époux attachés l'un à l'autre, comme collés glus, et qui plus est alliés, quelle importance cela pouvait-il bien avoir ? À quelque temps de là, Trong Fui, qui avait fait secrètement fabriquer une autre gâchette en tout point semblable à la griffe d'or de la tortue, manifesta le désir de revoir l'arc encore une fois pour chanter, prétendit-il, sa beauté en quelques vers. Comment Michaü aurait-elle pu refuser cette faveur à un époux aussi fin lettré ? Des lunes passèrent. Vers la fin de l'année, Trong Fui obtient du roi Han Duong l'autorisation de rentrer chez lui, en Chine, saluer ses parents et visiter la tombe de ses ancêtres. « Petite sœur, » dit-il en séchant les larmes de son épouse, « si l'amour conjugal ne peut disparaître, les bienfaits des parents ne peuvent s'oublier. Je dois retourner auprès d'eux. »« Quand vous reverrai-je ? » Elle le regardait derrière l'écran de ses larmes. « Bientôt, petite sœur, » répondit-il tristement. « Autant qu'à vous, cette séparation me coûte. Une simple supposition, car le sage doit tout prévoir. Si par la volonté du ciel, un événement malheureux survenait entre nos deux pays, vous obligeant à quitter ce palais, comment vous retrouver ? » Elle regarda, effarée qu'un malheur plus grand que leur séparation pût encore arriver, puis elle se reprit. « Cher époux, je possède un manteau de brocart doublé de duvet d'oie. À chaque carrefour le long de ma route, je jetterai des plumes. Vous n'aurez qu'à les suivre pour me retrouver et me sauver. » Douloureusement, leurs mains se désunirent et sur des promesses d'amour et de fidélité éternelles, Trong Fui sauta en selle à la tête de son escorte et au galop, disparut. Il emportait avec lui la griffe de la tortue d'or pour laquelle, en fils irréprochable, il avait tout sacrifié à la piété filiale. Mais d'avoir abusé de la bonté du roi Han Duong et plus encore trahi l'amour de sa fille, l'ont plongé dans un affreux désarroi et il n'arrêtait pas de souffrir dans ses entrailles de 9 manières différentes. Quant à son arrivée en Chine, le roi Trioda reçut la griffe d'or qui lui livrait désormais le roi Han Duong et son royaume. La joie détendit sa face de léopard implacable. Juste le temps de plier un doigt, car à l'écoute de l'ardent plaidoyer de son fils en faveur du roi Han Duong, son beau-père, le visage de Trioda reprit son expression coutumière de froide cruauté. Il attaquerait le royaume au lac et le vaincrait. Respect à ceci. À l'annonce de l'invasion de son royaume, le roi Han Duong poursuivit tranquillement sa partie d'échecs. Trioda a-t-il déjà oublié la puissance de mon arc enchanté ? Comme l'ennemi encercle la citadelle, le roi daigna enfin s'emparer de son arbalète magique, mais la première flèche qu'il tira manqua sa cible. Force était de constater que l'arc avait perdu tout pouvoir. Alors, sous la poussée irrésistible de l'armée chinoise, ce fut au sein des pacifiques troupes du haut lac la plus épouvantable panique et la plus effroyable débandade. Dans la cité du coquillage envahi, Les gens fuyaient de tous côtés parmi les cadavres amoncelés, dans le rougeoiement des incendies. Ayant fini par découvrir Michaü, sa fille préférée, au fond du palais sans dessus dessous, le roi Han Duong la prit en croupe et s'enfuit avec elle vers le sud. Courbé sur l'encolure de sa monture, il filait comme le vent, brouillant les pistes afin d'échapper à ses poursuivants, tandis que derrière lui Michaü, tout à la pensée de son époux, arrachait par poignées les plumes de son manteau pour les lancer innocemment à la croisée des chemins. Or donc, dans sa fuite éperdue, le roi arriva au bord de la mer, mais aucune barque n'était en vue, l'horizon était vide. Le chemin, semblait-il, s'arrêtait là. « Le ciel, gémit-il, a voulu ma perte. Envoyé de la rivière claire, où que tu sois, t'invite à mon secours. » À cet instant, les flots se soulevèrent sous la poussée d'une énorme carapace d'un blond éclatant, et la tortue d'or émergea pour crier au roi Han Duong d'une voix terrible. « L'ennemi est derrière toi, pourquoi ne le mets-tu pas à mort ?» Tirant vivement son épée du fourreau, le roi Han Duong se retourna, protégeant sa fille de son bras libre. Derrière lui, il n'y avait que le ciel, la mer, le sable. Il n'y avait que le vent et le bruit des flots. Tout était désert. Derrière lui, il n'y avait que Michaü, son enfant chéri. Soudain, la lumière jaillit en lui. Il comprit. Ses yeux fulgurèrent. Son bras se leva. « Si par trahison j'ai nui à mon père, s'écria la jeune femme avant que la lame ne la transperce, que je devienne poussière. Si fidèle à mon père et à mon pays, j'ai été trahi, que je sois transformée en perle. » La gorge tranchée, Michaü s'écroula sur le rivage et son sang coula dans les flots qu'aussitôt les huîtres perlières avalèrent. Tandis que le roi, saisissant une corne de rhinocéros, longue et brillante comme une pierre précieuse, s'enfonçait dans la mer en compagnie de la tortue d'or qui lui ouvrait un chemin au milieu des eaux. Quand Trong Fui parvint enfin sur le rivage grâce aux plumes d'oie accrochées aux buissons çà et là, il ne trouva sur le sable que le corps ensanglanté de Michaü, son épouse, qui l'emporta sur son cheval, entre ses bras, afin de l'ensevelir dans la cité de Koloa. Dès lors, rien ne put calmer sa douleur ni atténuer son remords. L'histoire dit que la nuit où Trioda, son père, fêtait la victoire de ses armes dans Koloa occupé, à l'heure où s'épanchait le capiteau parfum des citronniers, Trong Fui alla se jeter dans le puits de la citadelle. Cela se passait l'année Kiti, année de la débâcle du royaume au lac. L'histoire dit encore que depuis lors, les pêcheurs d'huîtres perlières de la mer de l'Est ont coutume de laver leurs perles dans l'eau de ce puits où elles acquièrent un orient incomparable.